Je vous propose de faire une lecture dans le livre des juges. Dans le livre des juges, chapitre 14, titre de cette réflexion, c'est « Samson, raison et cause d'une chute spirituelle ». Livre des juges, chapitre 14, verset 1er. Samson descendit à Timna et il y vit une femme, parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. Amen. » Lorsque nous lisons l'histoire de Samson, le récit de la vie de Samson, il y a parfois comme un goût d'inachevé. Cet homme qui avait pour but de délivrer Israël est passé à côté de sa mission. Lorsque nous lisons le récit de la vie de Samson, on s'aperçoit que il a manqué bien des étapes. Et en relisant ce texte cette semaine, il y a un verset des Proverbes qui est venu sur mon cœur, celui que l'on trouve au chapitre 6 et au verset 27, lorsqu'il est dit « Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment ? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés ?» Et c'est l'image même de la vie de Samson, qui finalement a joué avec le feu, qui finalement a mis le doigt dans des engrenages dangereux, qui finalement a hypothéqué ses chances de succès parce qu'il a introduit dans sa vie des éléments dangereux. Il a voulu jouer de manière inconsciente avec certaines choses. Plusieurs points sont à l'origine de cette décadence. David, lorsqu'il apprendra la mort de Saül, dira « Comment des héros sont-ils tombés ?» Lorsque j'étais jeune converti, un jour, j'ai appris que l'un des pasteurs qui était à l'origine de ma conversion avait trompé sa femme et qu'il était parti avec la voisine. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, il faut le savoir. Et à ce moment-là, profondément troublé, j'ai demandé à mon père comment cela peut-il être possible. Et la seule réponse qu'il m'ait donnée, mais elle m'a suffi, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et il est parti. Ça, c'est de la communication à la comtesse. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Comment des héros sont-ils tombés ? Comment un enfant voulu de Dieu, consacré par Dieu déjà dans le ventre de sa mère comme Samson, mis à part par ses parents, a pu tomber. Plusieurs raisons. La première tient essentiellement à ce que nous avons lu dans ce passage. Il a vu une femme, il l'a voulu. Littéralement, c'est « elle lui plut ». Ou alors, d'autres versions traduites, « elle fut droite à ses yeux ». D'autres textes disent « elle lui convainc », »,« elle lui convient ». On doit ajouter que elle lui a plu, mais pour un temps seulement. Voyez-vous, le premier souci dans la vie de Samson, on doit le trouver dans son cœur. Et le diable ne se servira que des failles qu'il y a dans notre cœur. Le diable n'aura de pouvoir et d'emprise sur nous qu'à partir du moment où nous laisserons des failles dans notre cœur. Et la principale faille dans le cœur de Samson, c'était tout simplement qu'il ne voulait en faire qu'à sa tête. Il ne voulait faire que ce qu'il voulait. Il ne voulait faire que ce qui lui plaisait. Il ne voulait faire que satisfaire ce qu'il désirait. C'est lui qui avait raison. Et lorsque ses parents vont lui dire « Mais Samson, il y a peut-être d'autres solutions, il y aura peut-être d'autres opportunités. Cette femme est une incirconcise, tu sais que tu connais très bien la loi de l'Éternel. » Et pourtant, eh bien, Samson n'a rien écouté. Et il a foncé tête baissée. Et quand on fonce tête baissée, que se passe-t-il ? On prend un mur à un moment ou à un autre. Allez, qui parmi nous n'a jamais pris de mur ? Regardez, j'ai plein de bosses. Il y a plein de bosses. Samson n'avait pas une volonté brisée. C'était la sienne qui comptait. Apprenons à rechercher ce qui plaît à Dieu et ce qui lui convient. Et je pense que nous éviterons bien des murs. L'apôtre Pierre dira au chapitre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Dieu sait ce qu'il nous faut. Dieu est notre Père et il sait la nourriture qui est nécessaire pour nous. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait quels sont les sentiments qui sont nécessaires à notre cœur. Il connaît nos manques et au-delà de les connaître, il a la possibilité de les étancher. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, nous dit l'apôtre Pierre. Pas simplement à la piété, mais à la vie. Parce que Dieu sait qu'aujourd'hui nous sommes dans un corps charnel, demain nous serons dans le ciel, certes avec un corps spirituel, mais aujourd'hui notre corps est adapté aux besoins de notre terre et Dieu nous donne tout ce qui contribue à notre vie. Que ce soit au niveau biologique, que ce soit au niveau affectif, Dieu sait ce dont nous avons besoin et en rentrant dans la volonté de Dieu, en cherchant la volonté de Dieu, en restant dans les garde-fous de Dieu, alors il nous donnera ce dont nous avons réellement besoin. Et que nous dit l'apôtre Pierre, c'est qu'à partir du moment où nous cherchons cette volonté, notre cœur ne va pas chercher des désirs qui font la guerre à l'âme. Regardez pourquoi vous êtes fatigué. Tu es fatigué, mon frère, tu es fatigué, ma sœur. Je ne parle pas du changement d'heure. Bien souvent, nos fatigues sont inhérentes, certes, à des circonstances de la vie. Et il y a des fatigues qui sont tout à fait légitimes. Jésus a été fatigué. Il s'est assis sur le puits de Sichem. Et là, qu'est-ce qui se passe alors qu'il avait peut-être envie de souffler un petit peu ? Il y a la Samaritaine qui arrive. Zut. Eh. Mais heureusement qu'elle est arrivée, heureusement que Jésus n'a pas tenu compte. Hein ? Hop ! Et puis, il y a certaines fatigues qui sont des fatigues liées à certaines convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Il est bon de se demander pourquoi est-ce que l'on est fatigué parfois. Pourquoi est-ce que l'on est épuisé ? C'est peut-être parce que le puits de notre cœur n'a plus rien, n'a plus d'eau au fond. Deuxième raison qui fait que Samson a chuté et qu'un héros est tombé, c'est qu'il n'a pas su gérer certains moments clés. C'est ce que j'ai l'habitude d'appeler les Gethsémané. Ces moments où nous avons des choix à faire et où la tentation vient frapper à la porte de notre cœur et où finalement on passe à côté. Dans la vie de Samson, il y a eu trois femmes et trois femmes extrêmement symboliques. Premièrement, il y a eu la fille des Philistins, celle qui est allée chercher à Timna, qui symbolise le monde et sa convoitise. Ce que nos yeux voient et ce que l'on aimerait avoir. Vous savez, l'éclair au chocolat, hein, qui est dans la vitrine et que l'on n'a pas le droit de manger. Il y a d'autres convoitises un petit peu plus gênantes. La deuxième, c'est cette prostituée qu'il va connaître à Gaza et qui représente la chair et ses désirs. On va le chercher. Et la troisième, c'est la fameuse Dalila, qui, elle, incarne un petit peu plus les tactiques du diable qui ont pour but de nous asservir. Quand on y réfléchit bien, tout comme Samson, ces trois femmes, ou ces trois ennemis, parce que toutes les femmes ne sont pas nos ennemis, de grâce, viennent frapper à notre porte à un moment ou à un autre. Et là, nous avons le choix de rester debout et de plier notre volonté devant celle de notre Dieu, bien de céder. On s'aperçoit que dans cette démarche, dans ce point, Samson a été victime de ce que j'ai appelé une spirale négative. On connaît les cercles vertueux, mais on connaît également les spirales qui nous tirent vers le bas. Qu'est-ce qu'il est dit dans le texte que nous avons lu ? C'est que Samson descendit à Timna. Il n'y a pas forcément qu'une question de géographie. Mais il y a également, je pense, une question de cœur. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va trouver d'ailleurs lorsqu'il va descendre à Timna ? Le lion. Un jeune lion qui va vouloir lui sauter dessus et que Samson va étriper à main nue. Il y a une prise inutile de risque et un danger que Samson va prendre. Et le péché, ça commence bien souvent comme ça. Ce n'est pas forcément lui qui vient frapper à notre porte. Mais il peut arriver que ce soit nous qui allions frapper à la sienne. Ça veut dire quoi, Timna ? Mon dessert pour celui qui trouve. Vous ne savez pas ce que c'est que le dessert. Ça signifie entrave. Samson va descendre vers les entraves. Samson va descendre vers les problèmes. Personne ne va l'y pousser. Mais Samson va aller vers les problèmes lui tout seul. Manque de sagesse, Samson. Ce n'est pas le péché qui vient frapper à sa porte, c'est lui qui va frapper à la porte du péché. Deuxième chose dans cette spirale, c'est qu'il va voir. Et chez Samson, les sens ont une part très importante. Tout ça, c'est parce qu'il ne parle pas. Samson ne parle pas. Merci. Juges 14:1. Samson descendit à Timna. Il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Et c'est ce que dit l'apôtre Jacques, c'est que nos sens nous amorcent. Et qu'à partir du moment où nous sommes amorcés, et que les choses descendent dans notre cœur, le problème vient là. C'est ce que dit l'apôtre Jean également, en Jean 2:16, il nous parle de la convoitise des yeux. Ce qui m'a intéressé dans cette spirale, c'est l'enchaînement des choses. Avec la première femme, elle a plu à Samson. La seconde, il n'est entré que quelques heures chez elle. La troisième, il l'a aimée. Et celle qui l'a fait tomber, c'est celle qui l'a aimé. On voit la gradation. Plaire, rentrer quelques heures et aimer. Et ça fait, je l'ai partagé ça déjà avec les jeunes, je crois, samedi soir à l'envolée comme ça, à la fin d'une réunion. Ça fait penser à ce texte de l'Apocalypse qui dit que celui qui ne rentrera pas dans le royaume des cieux, c'est celui qui aime et qui pratique le mensonge. Au début, Samson n'a fait que pratiquer le péché. Il n'a fait que jouer avec le péché. Et lorsqu'on voit l'histoire de Dalila, qu'est-ce qu'il est dit ? C'est que, à force d'être harcelé, il lui a ouvert son cœur. Et de la même manière que l'on peut ouvrir son cœur à Dieu, de la même manière que l'on peut laisser le Seigneur Jésus rentrer dans notre cœur et y faire le ménage, à certains moments, on peut flirter avec le péché. On peut jouer avec, on peut s'en approcher, on peut toucher. Excusez-moi si je parle de gros mots de sanctification de péché ce matin, je promets, je ne recommencerai plus. Pourtant, c'est une réalité. On met le doigt. Au début, ça nous dégoûte un petit peu. Au début, on a un petit peu honte, on le fait en secret. Et puis, il arrive un moment où on se met à l'aimer. Et où on lui ouvre notre cœur. Et je ne parle pas simplement de relations intimes, je ne reparle pas simplement de relations homme-femme, mais je parle, on peut apprendre à aimer le mensonge pour ce qu'il nous apporte, on peut apprendre à aimer le vol pour ce qu'il nous apporte. Finalement, auparavant, Samson ne faisait que rentrer dans la vie de ces femmes. Mais avec Delila, il a ouvert son cœur et Delila est rentrée dans sa vie. Samson avait une relation extérieure avec le péché. Mais à partir du moment où il a connu Delila et où il s'est laissé endormir sur ses genoux, c'est le péché qui fait partie de sa vie. Quelle différence Et la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir où se trouve le péché dans ta vie. Quelle est la relation que tu peux avoir avec ? Le péché, je le rappelle, c'est tout ce qui peut faire mal, tout ce qui peut blesser, tout ce qui peut détruire. Où se trouve-t-il ? Et tu rentrais dans sa maison et tu te dis, m'en sortirai, c'est pas un problème. Les portes de Gaza, j'ai l'habitude de les trimballer. Il faut savoir que trimballer la porte de Gaza, c'était pas rien. Où est le péché dans ta vie ? Ce qui est intéressant, et c'est le troisième point, c'est de voir comment est-ce que Delilah va avancer. Elle va le harceler. Ça, les femmes, vous êtes douées. Quand vous voulez quelque chose, vous savez comment l'obtenir. Bien souvent, c'est à l'usure. C'est vrai, les maris ? Ah oui, oui. Il y en a au moins deux qui subissent la même chose que moi. Ou alors deux qui sont un peu plus émancipés que les autres. Gentiment, tranquillement, allez Samson, livre-moi ton secret. Et Samson va jouer. Oh, t'as qu'à me faire des tresses. Et puis comme par hasard, t'as qu'à faire ci, et puis comme par hasard, mais Samson, t'es neuneux. Ça va pas. Je peux pas comprendre qu'un homme aussi intelligent, enfin, il ne devait pas être que fort, Samson. Alors, il était amoureux peut-être, ça arrange pas, mais quand même. Je ne peux pas imaginer, je réfléchissais à ça ce matin, je me dis, mais c'est pas possible, Samson. Non, mais le problème de Samson, c'est qu'il pensait toujours s'en sortir. Peu importe, je peux jouer avec elle. Elle m'apporte ce que je veux. Puis un jour, il lui a ouvert son cœur. Mais même en lui ouvrant son cœur, il s'est dit, je m'en sortirai comme toutes les autres fois. Et puis il s'est fait endormir sur ses genoux. Et un jour, il s'est retrouvé, quand il s'est réveillé, il s'est retrouvé les cheveux rasés. On sait très bien que la force ne tenait pas dans les cheveux, mais dans ce qu'ils représentaient. Et dans la parole de Dieu, les cheveux nous parlent toujours de consécration. Sans s'en rendre compte, il n'y avait plus de cheveux. C'est lourd de sens. Mais sans qu'on s'en rende compte, on peut être tendu. Et puis, à un moment donné, une difficulté survient. Et d'habitude, on l'a passé facilement, les fingers in the noise. On pensait être suffisamment fort, quoi. On avait l'habitude de s'en sortir. J'ai tenu jusqu'à maintenant. Mais tout d'un coup, on n'a plus la force. On n'a plus la force de surmonter. On a été rasé entre-temps. On s'est laissé endormir. Ça pourra faire l'objet de notre message, les causes de l'endormissement spirituel. Notre piété peut être rasée. C'est-à-dire que notre relation avec Dieu peut ressembler finalement à pas grand-chose. On oublie de se tenir devant lui, on néglige et on se laisse endormir petit à petit. On néglige de rechercher la vie du Saint-Esprit. On néglige de se nourrir de la parole de Dieu. On néglige de s'investir. On néglige de continuer à se mettre sur l'autel. Parce que notre vocation, c'est d'être des offrandes vivantes, des sacrifices. On n'est pas simplement des sacrificateurs, mais nous sommes également des sacrifices. Nous avons la double fonction. Et cette notion de sacrifice, quand on y pense, elle est lourde de sens. Seigneur, est-ce que j'ai été rasé ? Est-ce que j'ai perdu quelque chose ? Est-ce que j'ai perdu quelque chose ? Gentiment, Samson, tombez, méfions-nous, mes frères et sœurs. Des petites épreuves, des petites pensées qui reviennent. J'aime beaucoup cette image d'Abraham. Alors que Dieu va lui demander, frère, ses sacrifices, ses oiseaux, ses pigeons, etc. Et alors qu'il va le faire, alors qu'il va éventrer certains animaux, des oiseaux de proie vont venir. Abraham, toute la nuit, va lutter de manière à protéger le sacrifice. Pour conclure, Hébreux 11. J'aime bien conclure le récit de Samson comme ça. Samson fait partie des héros de la foi. Pour quelle raison ? Non pas parce qu'il a éventré un lion. Non pas parce qu'il a porté la porte de Gaza. Non pas parce qu'avec une mâchoire d'âne, il a mis une raclée aux Philistins. Mais parce que, alors qu'il était attaché, les yeux crevés, en train de tourner une meule, il a cru que son Dieu pouvait lui donner une dernière victoire. Et Samson, avant toute chose, n'est pas simplement un héros qui est tombé, mais Samson est un type même de la grâce de Dieu qui est capable de redonner la force même à ceux et celles qui ont les yeux crevés. Même à ceux et celles qui ont été tondus, même à ceux et celles qui ont perdu toute énergie, même à ceux et celles qui ont perdu toute force, même à ceux et celles qui ont été profondément infidèles. Ça, c'est la grâce de Dieu, ça, c'est la véritable foi, celle qui relève, celle qui restaure des vies, celle qui restaure des cœurs, celle que la parole de Dieu nous annonce, celle qui est une réalité. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que des murs, on en prend tous, des mauvais choix, on en prend tous, des conseils. Est-ce qu'on les écoute ? Combien de fois sommes-nous passés à côté ? Mais merci Seigneur, parce que nous avons pu compter sur la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Mais je dis que, si quelqu'un est en train de tourner une meule, est en train de tourner en rond, sans rien voir, sache une chose, c'est que Jésus est capable de te relever et de te redonner une dignité, de te faire revenir dans ta position de héros de Dieu, de te faire revenir dans ta position d'enfant de Dieu. Tout simplement parce que sur le bois de la croix, il a été meurtri pour que tu sois sauvé. C'est la réalité de la grâce de Dieu. C'est la réalité de la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre message à annoncer que une croix qui a été dressée, que le Fils de Dieu qui meurt dessus, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons relevés, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons restaurés, et afin que nous connaissions la paix qu'il y a en Dieu. Ça, c'est le message de la croix. C'est le message qui délivre des générations, c'est le message qui délivre des vies. Et peu importe ce qui nous a tondus, peu importe les délits qui sont passés dans nos vies, la réalité, c'est que Jésus est vivant. C'est ça en quoi nous croyons. Ce n'est pas une raison pour se mettre à tourner des meules. Parce qu'on a une mission bien plus importante que ça. Que moudre le grain pour les Philistins. Mais la grâce de Dieu est une évidence. Qu'est-ce que j'aime cette histoire de Samson ? Mais uniquement quand on la rapproche d'Hébreux 11. Et on se rend compte que du mal, Dieu fait germer du bien. C'est le même Dieu. Pensons à tous ceux qui ont été tondus. Et ne les regardons pas tourner leur meule, mais prions pour eux. Pensons à nos frères et sœurs qui sont peut-être en train de se faire tondre. Et prions pour eux. Pensons à tous ceux et à toutes celles qui ont les yeux crevés. Et prions pour eux. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir dans quelles conditions la grâce est exercée. Samson était prisonnier, alors que c'était un homme profondément libre. Notre liberté, elle viendra de notre dépendance à Jésus. Samson ne voyait plus, il était aveugle. Moi, ça me fait penser à Saul de Tarse, qui a été aveuglé pendant un moment, et cet homme profondément indépendant, on était obligé de le tenir par la main pour le guider chez Ananias. Cet homme était brisé, il n'avait plus rien. Et c'est là qu'il a véritablement fait le plus grand exploit et remporté la plus grande victoire. Et je conclurai cette conclusion de la conclusion avec ces paroles de l'apôtre Paul aux Corinthiens qui dira, que l'on connaît bien, que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts. Finalement, Samson n'a jamais été aussi fort qu'en tournant sa meule. Et Samson n'a jamais été aussi puissant qu'en tournant sa meule. Dernière petite chose, les cheveux de Samson, ils ont repoussé petit à petit. On ne lui a pas mis une perruque. Hein. Le Saint-Esprit n'est pas descendu pour lui mettre une perruque. Les cheveux, ils ont repoussé petit à petit. Mais ils ont repoussé. Tes cheveux sont en train de repousser. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fasse grâce.